Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je reçois aujourd'hui Daniel Handler à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » aux éditions Gallimard. Alors pour présenter Daniel et son travail, il faudrait bien plus de temps que je n'en dispose. Je me contenterai donc de rappeler qu'après avoir reçu une double formation en philosophie et en logique mathématique, après avoir enseigné les mathématiques dans diverses universités parisiennes pendant près de 20 ans, il a enseigné la philosophie des sciences successivement à Lille, à Nanterre et à l'université Paris-Sorbonne, où d'ailleurs il a créé l'unité de recherche sciences, normes et décisions. Aujourd'hui professeur émérite, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Daniel a, dès les années 80, orienté ses recherches philosophiques sur les sciences cognitives, notamment à travers des participations aux travaux du CREA, le Centre de recherche en épistémologie appliquée, au sein de l'École polytechnique, qu'il dirigea pendant 2 ans. Et il a également fondé le département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Il est membre fondateur de la Société de philosophie des sciences, de la European Society for Philosophy and Psychology. Et Daniel, à ce titre, a directement contribué à faire de la philosophie des sciences cognitive, un domaine reconnu et légitime dans le monde académique français, tant par ses enseignements, par les structures institutionnelles donc qu'il a fondées ou animées, que par son dévouement au service des doctorantes et des doctorants qu'il dirigeait ou qui croisaient simplement sa route, comme ce fut heureusement mon cas il y a une quinzaine d'années. Alors, parmi ses précédentes publications, je mentionnerai et recommanderai particulièrement La silhouette de l'humain, quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui, qui a été publié en 2017 aux mêmes éditions Gallimard. Et plus récemment, avec Thérèse Collins et Catherine Talon-Baudry, il a co-dirigé un collectif consacré à la cognition, intitulé « La cognition du neurone à la culture », là encore aux éditions Gallimard. Alors dans « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », Daniel, tu embarques ton lecteur dans une enquête que je me permettrai de qualifier de méticuleuse, qui examine les fondements conceptuels, à la fois théoriques et techniques, de l'intelligence artificielle conçue comme le domaine de recherche et ses différents acteurs institutionnels visant à la réalisation d'une intelligence artificielle qui soit légale, voire surpasse l'intelligence humaine. Et pour ce faire, tu proposes dans la première partie de ton livre un parcours qui va des fondements théoriques du champ de l'intelligence artificielle dans la logique mathématique et la cybernétique du siècle dernier, au développement technique de l'apprentissage machine et du deep learning contemporain. Ce premier temps te permet d'identifier à la fois les échecs et les avancées spectaculaires qui font aujourd'hui de l'IA une technoscience centrale et de dresser une liste des contraintes épistémologiques qui pèsent aujourd'hui encore sur l'ambition centrale de l'IA. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, tu proposes, à partir de la discussion de travaux en IA et en sciences cognitives, de refuser les termes de la comparaison intelligence artificielle intelligence humaine adoptée par l'IA au terme de deux chapitres 6 et 7 qui devront être étudiés à mon sens par tout étudiant de philosophie comme un exemple magistral d'analyse conceptuelle. Plutôt que de concevoir l'intelligence humaine comme une capacité à résoudre des problèmes, tu proposes une caractérisation du phénomène de l'intelligence humaine comme rapport normatif à la situation concrète d'un animal humain. Je cite « L'intelligence est la capacité de faire face au mieux aux situations ». D'une certaine manière, tu t'inscris là dans une tradition pragmatiste à laquelle tu fais référence. La distance plus ou moins grande entre certains types de situations et les problèmes, expliquant l'adoption par l'IA de la définition de l'intelligence comme résolution de problèmes, impose néanmoins de devoir revoir l'objectif prométhéen de l'IA, celui de créer une intelligence artificielle sur le modèle ou qui dépasse l'intelligence humaine, pour le rabattre sur une ambition tenable, tant du point de vue épistémologique et technique que du point de vue éthique. Ainsi, si l'IA parviendra à produire des systèmes artificiels intelligents qui résoudront sans doute plus efficacement des problèmes spécifiques que des agents humains, c'est d'ailleurs en partie déjà le cas, elle ne peut qu'abandonner cette quête prométhéenne de la production de systèmes artificiels à l'image de l'intelligence humaine. Les différents projets d'intelligence générale artificielle, de super-intelligence ou d'intelligence transformatrice artificielle doivent donc rester clairement dans une dépendance au jugement humain des situations, au risque d'échapper à son contrôle, indépendamment même du fait qu'elles parviennent ou non à reproduire ou à dépasser l'intelligence humaine. Alors, cette présentation générale est en fait, je voudrais faire une première remarque qui est de souligner combien ton ouvrage tranche avec une grande partie de la production éditoriale consacrée à l'IA, précisément parce que tu y évites soigneusement les dichotomies faciles, promesses et dangers de l'IA, optimisme ou pessimisme quant à la production de systèmes artificiels intelligents, pour en proposer une analyse philosophique informée scientifiquement et des conclusions qui, si elles restent ouvertes au débat, posent clairement les termes des problèmes philosophiques qu'il nous faut prendre au sérieux. Alors, je voudrais te donner maintenant la parole, après cette trop longue introduction. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, présenter à tes futurs lecteurs et lectrices ton intention et la stratégie argumentative qui est la tienne dans cet ouvrage ?
Bon, d'abord, je voudrais te remercier, Cédric, pour la présentation excellente. J'aurais pas pu faire mieux. Tu as même fait mieux que j'aurais pu le faire, même en y réfléchissant longtemps. C'était vraiment tout à fait remarquable. Et donc, pour essayer de... Je n'ai pas préparé, précisons-le, donc pour ceux qui nous écoutent, ce dialogue n'a pas été préparé, donc je n'ai pas, disons, une réponse toute faite, phrase par phrase, à ta question. Mais je pars un petit peu à l'aveugle, en improvisant, en disant que, au fond... Oui, je vais commencer par un contraste, voilà. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, donc on est au début des années 70, donc ça fait très 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 longtemps, ça fait un demi-siècle, il y avait deux constatations majeures. L'une, c'est que l'intelligence artificielle de l'époque était loin de réussir, elle était plutôt en situation d'échec. Alors bien sûr, c'était apprécié un peu différemment selon qu'on était un optimiste comme Herbert Newell, Simon, ou comme un pessimiste critique philosophique comme Hubert Dreyfus. Mais enfin, il était clair que l'intelligence artificielle, c'était un beau projet dont les réalisations étaient assez modestes. Et ce qui était intéressant, d'un point de vue à la fois, disons, scientifique et philosophique, c'était d'analyser les raisons de cet échec ou de ces difficultés qu'elle rencontrait. Qu'on soit du côté de l'intelligence artificielle, on cherchait à faire mieux, on constatait qu'effectivement, on rencontrait des difficultés. Alors, quand on était plutôt un critique radical comme Hubert Dreyfus ou John Hoogland, on essayait de dire que forcément, ce projet ne pouvait pas aboutir pour des raisons conceptuelles, c'était mal posé, c'était mal compris, etc. Et aujourd'hui, au moment où je me suis remis donc à étudier l'intelligence artificielle, que je dois dire j'avais un petit peu laissé de côté pendant pas mal de temps, puisque au fond, c'est vrai qu'elle n'arrivait pas à des choses vraiment très intéressantes. C'était vraiment les sciences cognitives qui me fascinaient. Mais quand je suis revenu à l'intelligence artificielle, donc relativement récemment, la situation est complètement différente. C'est-à-dire que là, on a une intelligence artificielle qui réussit. Et le problème, alors qui réussit, on discutera plus ou moins, etc., mais qui quand même réussit, dont les performances sont spectaculaires et troublantes. Et là, le problème, c'est plutôt d'expliquer la réussite que l'échec de l'intelligence artificielle. Et c'est une difficulté qui est à la fois scientifico-technique et une difficulté philosophique. On doit à la fois du côté philosophique se demander pourquoi ça réussit alors que on avait cru comprendre que ça ne pouvait pas réussir pour différentes raisons. Donc, ces raisons sont au moins à réviser. Donc, ça a été l'un des sens de mon travail de ces dernières années. Et puis, du point de vue scientifique et technique, eh bien, on est dans une situation où, comme il est dit souvent, et je crois que c'est exact, en tout cas, il faut le dire à nos lecteurs, que les inventeurs eux-mêmes de ces systèmes artificiels intelligents prodigieux dont on parle beaucoup, ChatGPT, GPT-4, etc., ces systèmes ne sont pas entièrement compris, pas même par leurs concepteurs. Donc on est le mystère, là, c'est d'expliquer pourquoi ça réussit, alors que le mystère, il y a 40 ans, c'était pourquoi ça ne réussit pas. Alors, Mon travail a consisté, comme tu l'as dit d'ailleurs très bien, à rappeler l'arrière-plan de l'intelligence artificielle qui n'est pas née comme ça de la cuisse de Jupiter comme ça il y a quelques années. Il paraît que même en Californie, dans les rues, on s'imagine que l'intelligence artificielle est née juste là maintenant. C'est la dernière nouveauté en quelque sorte, après les réseaux sociaux, etc. Tout à coup, pouf, l'intelligence artificielle. Donc il était important de se rendre compte que c'est un projet assez ancien, enfin disons, comme tu le sais très bien, évidemment, qui a à peu près 65 ans, 70 ans, mais qui remonte en réalité plus loin, en tout cas dans ses racines philosophiques et logiques. Mais en tout cas, ce n'est pas d'hier. Et que ce travail de fondation du domaine, d'abord, n'a rien de trivial, ce n'est pas du tout évident de faire des logiciels intelligents, même si on met des guillemets autour d'intelligent, ça a l'air relativement simple aujourd'hui pour le public donc majoritaire qui est né avec l'informatique, qui est né avec le web, qui est né avec ce que j'appelle qui est né dans ce que j'appelle la numérisphère, l'univers du numérique. Mais cet univers du numérique, c'est le produit philosophique, conceptuel, scientifique et logique de ce travail qui a commencé donc il y a 70-75 ans. Donc ça paraît important parce que si on ne comprend pas les origines, alors on ne va pas pouvoir vraiment réfléchir, disons, avec un minimum de plausibilité, d'intelligence et d'intérêt à jusqu'où ou où l'intelligence artificielle aujourd'hui nous mène. Donc ça, ça a été, disons, le travail de restitution de l'arrière-plan du développement historique. J'ai voulu, en passant, évidemment, signaler ce qui est la moindre des choses, c'est la première chose à faire, c'est de dire qu'il y a eu, bon, pour le dire très rapidement, deux paradigmes, un paradigme symbolique qui a été le début de l'histoire de l'intelligence artificielle et qu'il a été en grande partie remplacé, encore que c'est une simplification, mais simplifions, par un autre paradigme qui venait d'une autre, en quelque sorte, un autre courant au sein de la cybernétique, qui est ce que j'appelle le connexionnisme, puisque c'était son nom de l'époque, et qu'on appelle aujourd'hui très souvent le deep learning, qui a donné notamment ChatGPT, GPT-4, etc. Et donc ce changement, cette espèce de discontinuité me paraissait aussi très importante, parce que ce qui fait marcher le deep learning, c'est justement ce qui empêchait d'une certaine façon le paradigme précédent de fonctionner, pour le dire un peu rapidement et un peu maladroitement. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose a été que j'avais eu pendant longtemps, donc il y a des décennies, l'impression que l'intelligence artificielle ne progressait pas. J'ai constaté qu'elle progressait et j'ai constaté même, et j'ai changé d'avis, et je le dis dans le livre, j'ai constaté que disons, dans un certain espace, je ne vois pas de raison de principe pour laquelle l'intelligence artificielle se heurterait soudain à une espèce de barrière d'impossibilité, si l'espace des possibilités est celui de la résolution de problèmes. Donc, contrairement à ce qu'avait dit mon maître Hubert Dreyfus, et contrairement à ce que j'avais pensé longtemps, eh bien, non, il n'y a pas véritablement, autant que je puisse l'apercevoir, de problème que l'intelligence artificielle ne pourrait pas un jour être amenée à résoudre. Alors, comme je le dis dans le livre, je ne suis pas sûr, et même mon sentiment, mon intuition est qu'un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes mathématiques, puisque c'est ma discipline d'origine, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes de mathématiques qui ne seront jamais résolus par l'intelligence artificielle, encore qu'il faut déterminer un peu ce que seraient les règles du jeu, hein, mais peut-être on y reviendra plus tard. Mais pour simplifier en première analyse, donc, l'intelligence artificielle est, comment dire, sur le chemin de résoudre de plus en plus de problèmes, et donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle se rapproche d'autant de son objectif, c'est-à-dire l'intelligence humaine, et évidemment, éventuellement, le dépasser. Et mon sentiment, qui n'est pas seulement le mien, c'est que non, l'intelligence artificielle ne fait pas de progrès sensible en direction de l'intelligence humaine. Et ce que j'aime citer souvent, c'est les pères du deep learning, les héros en quelque sorte du jour, que sont Yann LeCun, Joshua Bengio et Jeff Hinton, titulaires donc du prix Turing il y a quelques années, et qui disent eux-mêmes, c'est quand même, alors c'est Bengio en particulier, mais les autres pensent la même chose, c'est quand même fou, nos machines sont encore très bêtes. Ah, comment ? À la fois, vous êtes ceux qui défendez, qui illustrez, qui éblouissez la Terre entière avec vos chats GPT et autres, et vous dites, mais quand même, elle est encore assez bête, elle n'a pas vraiment le niveau d'une intelligence de 3-4 ans. Alors, il y a une contradiction apparente, il y a une tension là, et donc je cherche à résoudre la tension, et c'est un petit peu mon travail, disons, personnel. Je me suis finalement inspiré surtout de moi-même. J'ai pensé que l'intelligence humaine, c'est autre chose que la capacité de résoudre des problèmes. Excuse-moi, j'étais peut-être un petit peu long dans exposé préliminaire.
C'est parfait. Alors, pour permettre peut-être au lecteur de se faire une idée de la manière dont tu procèdes, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur un préalable que tu poses très tôt dans l'ouvrage, qui est la précision simplement lexicale concernant cette expression intelligence artificielle qui, on le sait tous, est très polysémique. Et tu fais un certain nombre de choix, de conventions finalement, à la fois d'écriture et de sens, sur la manière dont tu l'utilises. Est-ce que tu pourrais préciser en quelques mots la manière dont tu définis en fait cet espace à la fois linguistique et conceptuel de la notion d'intelligence artificielle, s'il te plaît?
Oui, donc la question de départ, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une forme d'intelligence, comme on pourrait parler de l'intelligence des dauphins ou l'intelligence des anges ou l'intelligence des êtres humains qui sont plus ou moins intelligents. Il y a l'intelligence d'Einstein et puis il y a mon intelligence, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence, c'est une intelligence, c'est comme l'intelligence humaine, sauf qu'elle n'est pas humaine, auquel cas on doit attendre de l'intelligence artificielle les qualités définitoires de l'intelligence humaine, ou bien est-ce que c'est quelque chose de différent? Alors, sur le plan, disons, de la notation, on peut, en quelque sorte, remettre la discussion, qui est en fait une discussion compliquée et un petit peu sans fin, de savoir si l'intelligence artificielle, et je vais préciser, est vraiment une intelligence, sauf qu'elle est artificielle. On peut donc remettre cette discussion, ce débat, en mettant un trait d'union que je n'utilise pas, mais qui est implicite. C'est-à-dire, écoutez, laissons de côté la question de savoir si l'intelligence artificielle est une vraie intelligence, en quel sens c'est une vraie intelligence, puisqu'elle n'est quand même pas biologique ou naturelle, elle est quand même quelque chose de différent, mais pas trop différent, n'est-ce pas? Laissons de côté cette question un petit peu délicate, et convenons que l'intelligence artificielle, c'est tout ce que produit actuellement un certain courant scientifique, une entreprise en quelque sorte scientifique et technologique. Alors, dans le livre, je propose le sigle classique IA, l'abréviation classique IA, pour désigner le projet, l'entreprise, l'institution, qui vise à donc fabriquer des mécanismes, des engins, des algorithmes, des robots éventuellement, que j'appelle moi des systèmes artificiels intelligents, ou SAI, qui correspond en fait à l'usage malheureux que je déplore, mais qui est très courant, de une AI. On dit une AI me permet, je ne sais pas, de commander mes pizzas favorites, et une autre AI permet de soigner les ongles incarnés. Ce sont des systèmes artificiels intelligents différents, mais produits par cette entreprise, ce projet, qui est l'IA, l'IA comme projet scientifique et technique. Et alors, il y a une troisième idée, c'est que l'intelligence artificielle serait cette qualité un peu insaisissable, en fait, qui serait commune à ces différents systèmes, peut-être pas encore tout à fait présente dans ceux d'aujourd'hui, mais qui sera peut-être présente dans les meilleurs systèmes qu'on fabriquera demain ou après-demain. C'est-à-dire que ces algorithmes ou ces systèmes ou ces robots intelligents auront en quelque sorte acquis une propriété, une essence fondamentale qui sera l'intelligence artificielle vraiment et qui sera pour ces choses-là, pour ces mécanismes-là, l'équivalent de ce qu'est l'intelligence humaine pour les humains, une qualité spécifique. Voilà.
Merci beaucoup. Dans les chapitres 3 et 4, tu contrastes à partir d'une analyse à la fois conceptuelle et historique, tu l'as rappelé tout à l'heure, les trajectoires de la recherche en IA, hein, de l'IA symbolique et de l'IA connexionniste, ou ce que tu appelles aussi le neurocalcul. Est-ce que tu peux revenir un instant sur cette distinction et brosser l'impact finalement de l'adoption massive, alors pas exclusive, mais en tout cas massive dans les 10 dernières années, en gros, du connexionnisme sur l'état actuel de l'IA. Et je pense notamment à la manière dont les modèles massifs de langue tels que ChatGPT, dont tu parlais à l'instant, empruntent finalement aux deux stratégies, même si la dimension symbolique apparaît moins évidemment dans la présentation qui en est donnée.
Donc l'idée du paradigme, le cadre intellectuel, scientifique, conceptuel initial, qu'on a appelé à certains moments intelligence artificielle classique, appelons-la symbolique, c'est sa désignation la plus commune, était en gros la prolongation de la logique par des moyens nouveaux. C'était une extension de la logique au sens très général, philosophique, que tu exposerais d'ailleurs beaucoup mieux que moi, parce que tu en es un éminent spécialiste, c'est-à-dire l'idée que nous avons des pensées et que ces pensées suivent une sorte de calcul ou de logique étendue qui nous permet d'aller, alors évidemment, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors ça a l'air tout bête, ces petits syllogismes ont l'air vraiment simplets, mais en étendant le langage, on peut espérer en tout cas arriver à une sorte de description codifiée de nos pensées, de la manière dont on va d'une pensée à une autre. Et ce qui est important, c'est que ce sont des pensées que nous, d'une certaine façon, que notre conscience ou notre raison est capable de saisir, d'exprimer et de transformer. En d'autres termes, ce sont nos pensées au sens conscient qui suivent une certaine démarche. Quand, par exemple, nous jouons aux échecs ou nous planifions un voyage de Bordeaux à Paris après-demain, et que l'intelligence artificielle symbolique cherchait simplement à reconstituer cette démarche en la systématisant, en la codifiant sous forme finalement de programmes informatiques. Donc c'était ça l'idée initiale. Donc on a dit, et je crois que c'est pas faux, même si c'est une simplification, que la première intelligence artificielle était essentiellement une sorte de logique étendue, mais mise en musique, parce que la logique, elle permet de faire des choses, mais elle ne dit pas qu'il faut faire telle et telle chose. Donc il s'agit d'ajouter à la couche, disons, purement logique, descriptive, une couche d'action, c'est-à-dire un algorithme, c'est-à-dire un programme, un dispositif de contrôle qui dit, eh bien, cherche d'abord, vois ce que donnerait, par exemple, d'avancer ton pion d'une case, et puis tu envisages les différentes possibilités, et puis donc tu décides de faire ça ou de ne pas faire ça. Donc c'était ça l'idée, donc la pensée, c'est une forme de logique étendue, pour le dire rapidement, animée par une heuristique, c'est-à-dire par une stratégie en réalité qui te permet d'aboutir au résultat voulu. Donc par exemple, à planifier ton voyage de Paris à Bordeaux, ou à faire les courses dans le bon ordre, ou sortir les ordures tôt le matin, etc. La Le moment, disons, connexionniste, ou le moment du neurocalcul, c'est le moment où on se dit ce qui m'intéresse d'abord, c'est la manière dont sont produites les pensées plutôt que le moment où on voit que les pensées sont toutes faites et comment vont-elles s'enchaîner. Comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, faire advenir une pensée ? Alors là, on regarde un peu du côté du cerveau, puisque quand même le cerveau est en un sens très large et a précisé naturellement le siège de la pensée. On voit qu'il y a des neurones, on se demande comment ces neurones peuvent transmettre de l'information, se constituer en réseau et ainsi de suite. Et on en arrive à l'idée qu'il faudrait regarder l'appareil qui produit les pensées plutôt que la dynamique des productions, c'est-à-dire des pensées toutes faites. Alors ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est que, en réalité, il faut commencer. En réalité, on ferait mieux, plutôt que de regarder les pensées conscientes, qu'on appelle dans le jargon, dans notre jargon de philosophe, les pensées au niveau personnel, c'est-à-dire ce dont nous pouvons nous saisir consciemment. Le chat est parti par la fenêtre, Bordeaux est à 5 heures de Paris, etc. Plutôt que de regarder ce genre de processus mental ou ce genre de production mentale, on va regarder ce sur quoi justement nous n'avons pas prise. Et ce sur quoi nous n'avons pas prise, c'est la perception et la motricité. Nous ne savons pas comment nous faisons, nous ne pouvons pas dire comment nous faisons pour voir, pour entendre, pour nous orienter, pour bouger les mains, etc., etc. Et donc, l'idée... Alors, laissons la motricité de côté, ça complique un petit peu le tableau. Parlons simplement de perception. Donc, l'idée connexionniste fondamentale, c'est de partir de la perception et d'essayer de comprendre et de modéliser et de simuler la perception. Et la grande idée, après... donc. L'idée, c'est de partir de ça, pas pour s'y tenir, pas simplement pour avoir des modèles de perception, de reconnaissance des patterns, des formes, de reconnaissance des formes, mais que, vu d'une certaine façon, la reconnaissance des formes peut s'étendre justement à ces pensées qui sont celles dont vous laissez s'occuper de manière en quelque sorte directe ou trop directe. Le processus symbolique. Donc, l'intelligence artificielle connexionniste est une intelligence artificielle fondée sur, en simplifiant le slogan, tout est perception, alors que la première intelligence artificielle était tout est logique, y compris d'ailleurs la vision, puisqu'il y avait des modèles symboliques également de vision.
Merci beaucoup.
Alors, ça, c'est la première réponse un peu longue à ta question. La deuxième, c'est comment est-ce que le deep learning d'aujourd'hui, et notamment les modèles massifs de langage, comment sont-ils les héritiers, d'une certaine façon, l'apogée du deep learning, tout en conservant finalement une dimension symbolique en quelque sorte cachée. Alors, l'idée est la suivante, c'est que, bon... l'outil fondamental du connexionnisme, c'est le réseau de neurones, et la discipline est passée du stade du perceptron, qui était à l'origine de le premier modèle en quelque sorte connexionniste, à des modèles beaucoup plus performants qui ont beaucoup de couches, et les couches jouent un rôle très important. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Alors, l'outil fondamental, l'unité de base, c'est pas le programme informatique classique, comme c'est le cas pour l'intelligence artificielle symbolique. L'outil de base, c'est un réseau multicouche qui est entraîné sur la base d'exemples qui lui permettent peu à peu de reconnaître, d'améliorer sa réponse à des stimulus de manière à reconnaître effectivement parmi des images possibles, rattachées à des catégories possibles, eh bien, rattacher cette image-ci à la bonne catégorie. Ceci est un kangourou, ceci est un dromadaire, ceci est le visage de ma mère, et ainsi de suite. Alors, les modèles massifs de langage ne sont pas et sont loin d'être de simples réseaux ou de simples enchaînements de réseaux. Ce sont des architectures extraordinairement complexes à laquelle on est arrivé par des tâtonnements de plus en plus subtils, de plus en plus admirables de la part des ingénieurs, des informaticiens, et qui suivent essentiellement une logique symbolique. C'est-à-dire que on assigne à tel réseau de neurones, bon, d'un genre très particulier, ce sont des transformeurs, etc., ils sont très perfectionnés, mais néanmoins, on a toute une armada de transformeurs et de différents systèmes et sous-systèmes articulés dans une architecture qui est finalement une architecture fondamentalement symbolique, même si elle ne se dit pas, elle ne se présente pas comme telle. C'est pour ça qu'il y a encore du symbolique dans les langages massifs, dans les modèles massifs de langage.
Merci, merci beaucoup Daniel pour cette réponse qui vient éclairer, je pense, en grande partie le lecteur ou la lectrice sur ce point-là. Je voulais revenir sur un point parce que à plusieurs moments, tu dis au fond, l'IA symbolique, elle relève finalement d'une tradition qui est la tradition rationaliste. Tu n'as pas utilisé le mot ici, mais ça revient à peu près à ça. Tandis que l'approche connexionniste relèverait plus d'un empirisme inductiviste qui aurait fait beaucoup plaisir finalement aux philosophes des sciences du début du XXe siècle, en voyant là une démarche proprement scientifique. De droit. Au fond, ce que tu viens de dire sur les modèles massifs de langage consiste à dire que si ce qui est le plus efficace du point de vue de l'ambition de l'IA actuelle, ce sont ces modèles-là, c'est peut-être précisément parce qu'ils ont choisi de prendre ce qu'il y avait de bon à prendre dans la trousse à outils de l'épistémologie classique, à la fois de la rationalité, du rationalisme d'un côté, pardon, et de l'empirisme inductiviste de l'autre, pour s'approcher, en tout cas, de certaines de nos compétences dites intelligentes. Si je comprends bien, ce serait ça.
Oui, tu comprends très bien, et tu l'as exprimé aussi bien que je pourrais le faire. En précisant peut-être toutefois que il y a quand même un dominant, un dominé dans cette opération. C'est-à-dire que le courant dominant est très certainement empiriste. Et c'est quelque chose que défendent sur le plan conceptuel ceux qui parmi donc les inventeurs ou les commentateurs du deep learning mettent en avant, à savoir que l'intelligence est fondamentalement une question d'expérience, c'est-à-dire d'exposition à des exemples et de généralisation à partir de ces exemples. Alors, c'est en quelque sorte parce qu'ils y sont obligés par une certaine logique qui est une logique de bricolage, une logique d'ingénieur, que finalement ils disent on pourrait par exemple agencer nos réseaux de neurones de telle et telle façon, et que de cette manière-là ils introduisent en quelque sorte par la bande, mais sans vraiment le dire, des considérations qui sont en fait des considérations de rationalisme, comme tu le dis très bien. C'est le rationalisme de l'ingénieur, c'est le rationalisme de celui qui cherche à obtenir un résultat et qui cherche à agencer les moyens en sorte d'obtenir ces résultats en réfléchissant, en quelque sorte, comme le fait l'intelligence humaine, scientifique et technologique. Alors, il y a autre chose qu'on peut dire, c'est que des gens comme le commentateur actuel, l'un des commentateurs les plus en vue depuis quelques années, c'est Gary Marcus, comme tu dois le savoir, qui est ancien professeur à Harvard de psychologie, en fait de sciences cognitives, qui s'est intéressé à l'IA et qui défend... qui veut défendre quand même ce qu'il appelle l'esprit algébrique, the algebraic mind, c'est-à-dire un esprit ou une intelligence qui fonctionne comme justement les pionniers de l'IA symbolique imaginaient qu'il fonctionne. Et ils disent il y a les deux, en quelque sorte, et on arrivera vraiment à faire des progrès, parce qu'ils doutent que les résultats actuels soient aussi spectaculaires, etc. Il est plutôt critique, n'est-ce pas? Il s'est engagé dans des polémiques avec Yann LeCun, avec Bengio notamment. Et il dit donc que si on veut vraiment obtenir des résultats intelligents, on va bien être obligé de sortir en quelque sorte du placard le rationalisme. Il va falloir vraiment imaginer des systèmes hybrides, c'est peut-être pas un terme très joli, mais des systèmes hybrides qui puisent, exactement comme tu le disais, aux deux sources, n'est-ce pas ? Aux deux sources de la connaissance, si on peut dire, mais cette fois-ci de manière ouverte et franche. Mmh. Et il y a effectivement des tentatives en ce, champ, en ce sens que je pourrais, je pense, même si j'en avais le temps, pas expliquer vraiment complètement. C'est vraiment des travaux extrêmement pointus de recherche. Je suis pas du tout sûr de comprendre complètement, mais qui consiste vraiment à essayer, encore une fois, de mettre au fond, de rétablir une sorte d'équilibre entre l'esprit algébrique et l'esprit de l'association perceptive.
Merci bien. Alors, j'en viens maintenant au point central, peut-être, de l'ouvrage, c'est-à-dire cette critique que tu fais de la définition de l'intelligence qui est mobilisée, en fait, par l'entreprise d'intelligence artificielle, qui considère en gros que toute intelligence peut être définie comme un ensemble de résolutions de problèmes, avec toute la diversité des problèmes qui peuvent se poser, problèmes pratiques, théoriques, concrets, abstraits, etc. Mais qu'au fond, ce qui va être définitionnel de l'intelligence, c'est cette capacité à résoudre des problèmes dans toute leur généralité. Et c'est une définition qu'on retrouve effectivement de manière très régulière dans la littérature d'intelligence artificielle, qu'on retrouve d'ailleurs également dans la littérature de sciences cognitives, même si ça a suscité des débats et ça continue à en susciter. Et donc, tu dis au fond, si on veut prendre au sérieux le projet de l'IA et en comprendre les capacités d'aboutir à son but affiché, d'égaler, voire de dépasser une intelligence humaine, ça ne peut être pensé qu'à condition de comprendre exactement ce qu'est l'intelligence humaine et dans quelle mesure les ressources dont dispose l'IA sont susceptibles de répondre à cette description. Et donc, au fond, le chapitre 6 et 7 hein, vont revenir sur cette définition de l'intelligence comme résolution de problèmes, et tu y substitues une définition de l'intelligence comme capacité à prendre en charge une situation, capacité à utiliser les ressources nécessaires pour répondre concrètement aux conditions d'une situation donnée pour un organisme, en l'occurrence humain, mais qui pourrait être animal ou artificiel. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer exactement pourquoi cette définition de l'intelligence comme résolution de problèmes te paraît insuffisante et nous proposer une sorte de vue d'ensemble, ça sera difficile à faire en quelques minutes, mais des raisons qui t'amènent finalement à choisir cette version, alors j'ose pas dire situationniste parce que ce serait hors de propos, mais en tout cas de la définition de l'intelligence comme réponse à une situation.
Alors, je suis parti en fait d'une réflexion phénoménologique, mais au sens, comment dire, naïf du terme. Je me suis posé en quelque sorte la question. Alors, en réalité, ça fait de très nombreuses années, et là je dois en partie mon inspiration à Hubert Dreyfus, ce serait tout à fait malhonnête de ma part de le cacher. Dreyfus avait, à sa manière, insister sur la question du contexte qui est lié à la question du sens commun. Donc l'idée est la suivante. Un être humain dans une situation concrète se trouve face à un nombre indéfini, on ne peut pas compter en quelque sorte le nombre d'aspects de la situation dans laquelle il se trouve à un moment donné. Il est très important d'imaginer que c'est une situation concrète, c'est pas une situation en quelque sorte qu'on a déjà purifiée en disant oui, c'est la situation typique d'un élève de sixième qui a triché sur sa copie, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Alors on donne toute une série de caractéristiques de la situation, mais là ça veut dire qu'on l'a déjà réduit à un problème. En réalité, le gamin, il est là. Ce jour-là, ce lundi matin, et le prof le fait venir et lui dit « tu as copié sur Frédéric ». Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est plongé dans une situation qui comporte des dangers, des enjeux, un nombre, encore une fois, incalculable, indéfini de paramètres. Et ce contexte, il doit l'organiser d'une certaine façon. Et l'organiser, c'est, ça lui permet de négliger complètement un certain nombre d'aspects, de n'en conserver que certains qui lui semblent pertinents. Cette opération, en quelque sorte, d'organisation du contexte, le conduit à, dans beaucoup de cas, un problème. Il formule un problème. Le problème, c'est je vais trouver une excuse, je vais expliquer que j'avais la fièvre la veille, je vais expliquer que c'est au contraire Frédéric qui a copié sur moi, enfin, Dieu seul sait quoi. Donc, c'est ce passage, en quelque sorte, du caractère à la fois indéfini et infini du contexte dans lequel se trouve soit un animal, soit un être humain. Et alors, dans le cas de l'être humain, c'est beaucoup plus compliqué, on y reviendra peut-être. C'est ça qui distingue donc la situation, la gestion. J'aime pas beaucoup le mot gestion, ça, mais pour le dire vite, la gestion ou la réaction appropriée, l'action appropriée dans une situation impose d'abord de conceptualiser, si on veut, la situation ou de la problématiser. Donc cette problématisation, je prétends que ça n'est pas un problème, c'est un choix, d'une certaine façon, qui n'est pas du même ordre que le problème. Dans un problème, le problème est abstrait, il est impersonnel. C'est le problème, typiquement, un problème scolaire. Résoudre une équation du second degré. Bon, n'importe qui peut résoudre ou peut ne pas résoudre l'équation du second degré, mais il y a une façon de résoudre l'équation du second degré qui va donner des solutions qui sont en quelque sorte prédéterminées, même si elles ne sont pas connues. Contrairement à une situation concrète vécue dans laquelle il n'y a pas d'issue prédéterminée. Il y a eu un nombre indéfini de façons de gérer la situation. Alors, il est vrai que certaines sont plus appropriées que d'autres, et ça, c'est l'étape suivante, en quelque sorte, c'est l'étape de normativité. C'est le moment où on décide que telle manière est finalement la bonne manière, ou une bonne manière, ou une moins bonne manière d'avoir géré la situation. Je ne sais pas si j'ai été aussi... C'est toujours un peu difficile à expliquer.
Peut-être sur ce point, on peut peut-être prolonger un petit peu, au sens où... par situation tu entends, ou par intelligence dans la situation tu entends cette relation comportementale finalement que le sujet a à la situation concrète dans laquelle il se passe, tu viens de nous le dire, il y a cette phase de problématisation qui consiste en fait à diminuer le nombre de dimensions de la situation à un certain nombre qui sont finalement maîtrisables par l'action du sujet. Et c'est ce qui explique, tu le dis très bien, les différences qu'on peut noter tous entre intelligence animale et intelligence animale non humaine et intelligence humaine. Au fond, finalement, c'est un problème de dimensionnalité ou de complexité des problèmes qui sont issus en fait de la situation dans leur traitement. Et à partir de là, tu argumentes autour de l'idée que la notion d'intelligence ou le concept d'intelligence ne peut pas être un concept simplement fonctionnel ou descriptif d'une capacité générale qui serait transversale finalement à l'ensemble de notre activité ou de nos comportements, mais il faut plutôt l'entendre comme un concept normatif. Et ça, c'est un point à mon sens absolument central et qui peut engager à un débat, voire à des objections. Alors, je vais t'en formuler une, non pas que je la porte, mais je pense que c'est une objection que tu vas recevoir d'un certain nombre de lecteurs ou de lectrices, qui est que dès lors qu'on définit l'intelligence comme un concept normatif, est-ce que d'une certaine manière, ça ne constitue pas une objection de principe à l'entreprise des sciences cognitives elles-mêmes, voire des neurosciences dans leur ensemble, si leur objet, au lieu d'être un objet naturel, facilement définissable, dont on peut finalement tenir les différentes dimensions en termes fonctionnels, ou en termes fonctionnalistes, pour faire vite ici, mais comme un concept normatif, est-ce que finalement ça n'échappe pas au domaine des sciences de la nature? Et là, on retrouve finalement une thématique qui t'était chère dans La silhouette de l'humain, sur la question de la continuité à établir entre les sciences dites spéciales et les sciences physico-mathématiques.
Oui, bon, c'est une excellente question. Tu as raison, c'est peut-être la question centrale. Enfin, si on essaie de se placer, disons, dans la perspective de la philosophie de l'esprit ou des fondements des sciences cognitives, tu as tout à fait raison. Alors, j'avoue que de temps en temps, ça m'inquiète. Mais je crois quand même que j'ai une sorte de réplique qui n'est pas une façon d'éviter le problème, mais c'est une façon de reconnaître que la question de l'intelligence est du même ordre que la question générale de la normativité et de l'irréductibilité de la normativité à un compte-rendu naturaliste. Donc, finalement, et ça, je regrette maintenant de ne pas avoir utilisé le terme, en fait, la notion qui était très familière, mais qui n'est peut-être pas familière pour tous nos auditeurs, c'est celle de survenance. C'est-à-dire que incontestablement, la manière intelligente, alors comme je dis, comme c'est normatif, ça veut dire normatif au sens fort, ça veut dire qu'on peut toujours en discuter en principe. Hein, quand on se jette à l'eau pour sauver un enfant, ça a l'air courageux, mais enfin, on peut aussi se demander si le gars ne voulait pas éventuellement se suicider ou se faire valoir comme auprès des jolies jeunes femmes qui sont sur la plage. Enfin, on peut toujours discuter en quelque sorte de la valeur éthique d'une action particulière. Et c'est de la même manière qu'on peut toujours discuter de l'intelligence de ce qu'a été une action. Alors évidemment, dans la plupart des cas, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est parfaitement clair que ça a été la chose intelligente à faire. Et dans d'autres cas, c'est la chose inintelligente à faire. Quand on se surprend soi-même à avoir agi de manière complètement idiote, on le sait très bien, hein, ça se discute pas. On a vraiment été idiots. Mais en principe, on peut toujours en discuter. De la même manière qu'en principe, on peut toujours se demander si, au fond, la 40e symphonie de Mozart, c'est sa plus belle œuvre ou la plus belle œuvre musicale, ou etc., etc. On peut toujours, en principe, en discuter. N'empêche que, bien sûr, la 40e symphonie de Mozart, ou bien mon action dans une situation difficile, d'avoir réussi je ne sais quelle négociation difficile entre des gens qui se disputent, etc., se fonde sur des capacités naturelles qui, dans le cas qui nous occupe, sont les capacités qui sont mises à jour, au jour, par les sciences cognitives. Ce sont effectivement les différents modules de l'architecture cognitive qui sont mis en jeu quand je prends une décision appropriée ou pas appropriée. Mais c'est à chaque fois un autre déploiement. De la même manière que la beauté d'un tableau de Modigliani et la beauté d'un tableau de Cézanne surviennent certainement sur des propriétés optiques, picturales, machin truc, et des proportions, mais à chaque fois de manière organisée, de manière différente. Donc c'est ma manière à moi de me rassurer, de me dire que on peut à la fois défendre l'idée de la normativité forte de l'intelligence et reconnaître que dans chaque cas particulier, l'intelligence, la cognition qui a été mise en œuvre pour accomplir cet acte est quelque chose de parfaitement naturel auquel, effectivement, sur lequel les sciences cognitives nous éclairent de mieux en mieux. Cela dit, il est vrai que les sciences cognitives, il se trouve, tu as parlé d'ailleurs de, je fais juste un pas en arrière, quand tu as dit les sciences cognitives s'intéressent à l'intelligence, encore qu'il y a des débats, justement, puisque comme tu le sais très bien, et tu faisais allusion à ça, les sciences cognitives ont décidé de mettre un peu de côté la question de l'intelligence. Et en fait, c'est une branche de la psychologie scientifique un petit peu différente des sciences cognitives qui s'intéressent à l'intelligence en réalité. Donc, il y a une sorte de difficulté. Alors, comme je le dis quelque part dans le livre, pour Daniel Osherson, qui est donc l'auteur d'un grand manuel de sciences cognitives, il dit l'intelligence, j'ai oublié maintenant, la cognition, ça n'est rien d'autre que le déploiement de l'intelligence ou quelque chose comme ça. Pour lui, l'intelligence, c'est simplement l'expression, la mise en œuvre des différentes capacités cognitives. Et moi, je me sépare de cette définition. Mais, comme je le dis aussi, après tout, le terme d'intelligence ne m'appartient pas plus qu'il t'appartient à toi ou qu'il appartient à Osherson. Il y a une sorte de décision terminologique à prendre à un moment ou à un autre.
Ouais. Mais, merci. Alors, de ce point de vue, on pourrait donc considérer que finalement, le mouvement que tu prônes pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fait de cesser de poursuivre un but chimérique, alors prométhéen ou chimérique, mais ou les deux à la fois, d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine conçue comme résolution de problèmes. Il faut finalement en rabattre, un petit peu comme les sciences cognitives en ont fait, en abandonnant d'une certaine manière de faire de l'intelligence le point focal de leur étude pour s'occuper de la mémoire, de la perception, de la capacité à apprendre, de la capacité à... des quid pro quo entre automatisme et contrôle pour le comportement, etc. C'est-à-dire en se concentrant sur des aspects de la cognition, au fond, l'IA devrait faire exactement la même chose et travailler à produire des SAI qui iront vers une capacité spécialisée beaucoup plus grande finalement que celle de certains sujets humains, voire de tous les sujets humains, mais en tout cas abandonner cette dimension prométhéenne de dépassement ou d'atteinte de l'intelligence humaine. Si je te comprends bien, en fait, c'est une question de stratégie, de repli d'une certaine manière, mais qui n'est pas un abandon pour autant.
Oui, tu as tout à fait compris, c'est bien ça. Il se trouve, ça tombe bien, que c'est probablement aussi l'attitude sage en matière de risques qu'on ferait courir, et on commence à en parler, à essayer de faire des systèmes de plus en plus à la fois généraux, hein, l'idée de se rapprocher de cette fameuse intelligence générale artificielle, c'est-à-dire une intelligence versatile, fluide, qui est aussi bien capable de traiter, je sais pas, d'une urgence médicale que du choix de la meilleure pizza dans la ville de Bordeaux. Donc une intelligence générale et une intelligence autonome. Donc l'idée de faire véritablement quelque chose qui marche tout seul, qui fonctionne tout seul. Et alors je pense que, on n'arrivera pas à... On n'arrivera pas, évidemment, ça se discute, ça se défend, mais l'idée générale, c'est que selon moi, on n'y arrivera pas. Parce que selon moi, on n'est toujours pas arrivé à l'intelligence, disons, située ou pragmatique d'un enfant de 3 ans ou d'un enfant de 6 ans, et a fortiori pas d'un adulte dans la pleine possession de ses moyens. Donc, premièrement, on n'y arrivera pas. Mais en visant ça, on risque de produire des objets mal compris, très puissants, et très dangereux. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, si Jeff Hinton, qu'on désigne, donc j'en ai parlé tout à l'heure, comme le parrain, n'est-ce pas, de ChatGPT, démissionne de Google, c'est parce qu'il craint, effectivement, qu'il redoute les dégâts que produisent ces objets. Alors, ce n'est pas forcément ChatGPT ou GPT-4, mais de manière générale, ce vers quoi semble courir donc les grands laboratoires d'IA américains, chinois et ainsi de suite, qui, dans cette espèce de course de concurrence acharnée, risquent de produire des systèmes de plus en plus puissants, de moins en moins bien compris, jouissant d'une espèce de fausse autonomie qui ne peuvent finalement que nous gêner plutôt que de nous aider.
Merci. Bon, ce sera ma dernière question, je pense, sur ce dernier point qui est en fait une sorte de passerelle entre le chapitre 9 et le chapitre 10, hein, sur à la fois le projet prométhéen d'une part et les enjeux en termes éthiques, politiques et culturels, parce qu'il y a vraiment des modifications profondes qui sont introduites par ces projets de système artificiel intelligent, tels qu'ils se déploient aujourd'hui, d'ores et déjà. Tu contrastes dans le chapitre 10 entre présentisme et futurisme éthique. En gros, s'agit-il de se faire peur et de commencer à faire de l'éthique fiction à propos de ce que pourront faire d'éventuels IA dans le futur, de futurs systèmes artificiels intelligents dans le futur? Ou s'agit-il de s'inquiéter de ce qui se passe aujourd'hui? Et là, on est frappé par les différentes dimensions des enjeux actuels de la recherche en IA, qu'il s'agisse de la débauche d'énergie et de moyens financiers qu'il faut pour arriver à faire tourner certains de ces modèles. Je pense notamment au modèle massif de langue. qu'il s'agisse du travail sous-payé d'un sous-prolétariat digital qu'il faut employer en fait pour entraîner certains de ces modèles. Mais également les différentes questions que tu abordes dans le dernier chapitre sur la question de notre rapport à ces outils-là. Et tu insistes sur les questions de transparence et d'opacité à l'égard de l'information qui est fournie par ces systèmes, mais également à l'enjeu de l'appropriation des données privées que, par exemple, la réglementation a essayé de cadrer avec les RGPD. Et ma question serait, au fond, est-ce que ces conditions d'un contrôle humain des SAI que tu appelles de tes voeux et qui semblent absolument nécessaires et qui doit être conçu, tu le répètes à plusieurs reprises, dès le moment de la conception en fait du système, c'est pas quelque chose qui peut venir seulement a posteriori, il faut qu'on l'intègre dans l'architecture générale du système, dans le process de conception. Comment faire en sorte que cette démarche-là soit implémentée réellement par les institutions de l'IA, dans la mesure où ces institutions, pour une bonne part, sont des grandes compagnies internationales, GAFAM, qui cherchent avant tout à réaliser du profit, ou de grandes entreprises nationales qui dépendent d'un système totalitaire comme les BATX, en Chine, dont on peut soupçonner que leurs intentions ne sont pas simplement celles d'améliorer l'état de l'humanité. Donc, il y a ici finalement un enjeu qui est autour de cette maîtrise ou de ce contrôle, voire de cette réglementation a posteriori, qui est, dans la mesure où les acteurs sont ceci, comment est-ce qu'on peut réellement arriver à renforcer ce contrôle ?
Alors ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Si j'en avais une, je pense que je serais en ce moment probablement dans le cabinet à la Maison Blanche en train de donner. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui quand même réfléchissent beaucoup à ça. Aujourd'hui même, on annonçait que le DSA, le Digital Service Act, allait être mis en vigueur avec application dès le 25 août. Thierry Le Breton a l'air très content de ce résultat et Cap Digital, qui est un centre de compétitivité sur ces questions-là, dit que voilà, il annonce qu'on va enfin peut-être pouvoir maîtriser ces monstres que sont les GAFAM. Et tout en l'éditorialiste de Cap Digital exprime certains doutes en pratique, ça va pas être évident. Moi, je suis comme beaucoup de gens inquiets, à vrai dire. Je n'ai pas de réponse. Je me dis, comme Yann Lequin d'ailleurs, que l'IA n'est pas simplement un problème, c'est aussi une partie de la solution. C'est-à-dire que ces outils très puissants peuvent être aussi, utilisés pour exercer un contrôle sur les outils eux-mêmes. Et donc ça, je crois même que c'est un de mes auteurs favoris, encore que je n'ai lu de lui qu'un papier, mais je l'ai trouvé tout de suite très bon, qui est un certain Samuel Bowman, qui est, je crois, professeur associé à Harvard, qui a été l'un des premiers à dire que les modèles massifs de langage, c'est facile de se moquer d'eux, surtout les tout premiers. Même aujourd'hui, on sait qu'ils font des bêtises épouvantables, qu'ils n'ont pas le sens commun, etc. Et que ça coûte très cher à fabriquer, etc. Mais à force d'insister sur leurs défauts et leurs défaillances, on en vient à négliger leur performance et on en vient à sous-estimer ce qu'ils sont capables de faire. Et ça, c'est pas une bonne idée. Le même Samuel Bowman a suggéré récemment un concept qu'il appelle, je crois, l'IA constitutive ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le terme exact. C'est exactement l'idée d'utiliser ces outils surpuissants de l'IA pour contrôler l'IA. Non pas de manière autonome, naturellement, parce qu'on tomberait de nouveau dans une espèce de cercle vicieux de trucs qui nous échappent, mais des outils utilisés par des êtres humains pleinement intelligents, pleinement conscients des dangers et des enjeux, pour essayer de maîtriser cette technologie qui nous échappe. Mais la guerre des IA me paraît, la guerre des grands modèles me paraît une possibilité certaine, avec toutes sortes de, comment appelle-t-on ça, de dégâts collatéraux sous forme humaine. Et je pense évidemment en partie à ce qui se passe sur le plan militaire et de la surveillance. Enfin, tout ce qui est sécurité, la surveillance, la privauté, la vie privée, la répression politique, d'une part, et évidemment la guerre. Et là, je crois qu'il y a, il y a de très bonnes raisons de s'inquiéter. Bon, ce qui est, encore une fois, une cause de... non pas d'optimisme, mais une cause d'espoir, c'est que les gens prennent de plus en plus conscience de ces dangers et que des gens très intelligents, pouvant s'appuyer donc en partie sur ces techniques d'intelligence artificielle, trouveront peut-être à terme le moyen de maîtriser cette nouvelle technologie. Mais ce n'est pas gagné.
Écoute, Daniel, je te remercie beaucoup pour toutes ces échanges. Je ne peux que conseiller la lecture de ton ouvrage à nos auditeurs et à nos spectateurs et spectatrices. Et puis j'espère te revoir en vrai très bientôt.
Merci beaucoup, Cédric. Ça a été une discussion très profitable pour moi aussi. Je te remercie beaucoup.
Merci beaucoup.